Bonjour à chacun d'entre vous, et puis bienvenue aussi à vous qui nous visitez ce matin. C'est mon avant-dernière prédication en tant que pasteur de cette église. Alors je ne sais pas, peut-être un peu, si c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de la dépression ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre des Rois. En fait, non, nous ne parlerons pas de la dépression, nous parlerons de la dépression d'Élie, du prophète Élie, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Premier livre des Rois, donc, chapitre 19, avant de lire, pas tout le chapitre, mais quelques versets de ce chapitre 19, je rappelle que le prophète Élie, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, je crois que c'est le prophète le plus cité, donc le prophète de l'Ancien Testament, le plus cité dans le Nouveau Testament, c'est Élie. Il a exercé son ministère prophétique sous le règne de deux rois, le roi Akab et le roi Ahazia, donc entre, pour ceux qui aiment les dates, 873 et 852 avant Jésus-Christ. C'est pas d'hier, c'est d'avant-hier. Et c'était une période marquée par une très grande infidélité envers l'Éternel. Le roi Akab, et surtout sa femme Jézabel, qui était la fille du roi des Sidoniens, du roi de Sidon, avait établi officiellement le culte du dieu Baal dans le royaume du Nord. Et l'auteur de ces livres des rois nous dit que Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui étaient avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quant à Jézabel, sa femme, elle s'est forcée d'éliminer tous les prophètes de Dieu au point qu'il devait se cacher pour échapper à la persécution. Et dans un tel contexte, le ministère du prophète Élie devenait de plus en plus difficile. Pourchassé par le pouvoir politique rebelle au message divin, Élie a dû fuir sans cesse, vivre en exil. Et je crois qu'aucun autre prophète, aucun autre homme de l'Ancien Testament a vécu une si grande solitude que le prophète Élie. C'est essentiellement un homme seul. Et l'exemple le plus typique, enfin, que j'ai trouvé de sa solitude, c'est lorsqu'il a été nourri par des corbeaux au torrent de Kérit. Les seules visites qu'il avait, c'était celles des corbeaux. Je ne sais pas s'il pouvait parler avec ces corbeaux. Il leur disait sans doute « qu'est-ce que je suis content de vous voir ?» Il lui apportait de l'eau et de la viande. Et vous savez ce qu'il leur répondait, les corbeaux ?« Crois, crois, crois !» Nous l'avons chanté tout à l'heure, « Je crois au Dieu vivant ». Mais bien sûr, il ne parlait pas français, ça parle toutes les langues, c'est international, un corbeau. Enfin. Et donc, il a été nourri par des corbeaux, et cela a duré, ça fait penser à un sketch, dit l'auteur des Rois, cela a duré un certain temps. Seul contre 450 prophètes de Baal, aussi, au Mont Carmel. Seul contre 450 prophètes de Baal. Et après la démonstration éclatante de la suprématie de Dieu sur la divinité païenne Baal, Élie, eh bien nous allons lire maintenant dans 1 Rois chapitre 19, nous allons voir la situation d'Élie. Après cette victoire éclatante de Dieu sur le Dieu Baal. 1 Rois, chapitre 19. Oh, mais nous lisons peut-être d'abord au verset 46 du chapitre 18. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant, « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Nous arrêterons là notre lecture. Après donc cette démonstration éclatante de la puissance de Dieu, Élie passe par une phase de dépression. De nouveau, il se retrouve seul, seul avec lui-même, seul avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la dépression ? Définition du petit Robert, je cite, « État mental pathologique caractérisé par la lassitude, du découragement, de la faiblesse, de l'anxiété. » Je crois qu'on trouve tout cela chez Élie à ce moment de sa vie. Alors, ce récit, je le précise tout de suite, ne nous donne pas de recette pour guérir de la dépression. La dépression est une maladie complexe, souvent longue. Mais ce récit nous montre comment Dieu a agi avec un homme plongé dans une grande dépression. Et bien sûr, il y a des leçons à en tirer, pour nous tous, que nous passions par la dépression ou pas. Alors pourquoi Élie est-il si abattu ? Il a reçu un choc terrible lorsqu'il a appris cette nouvelle que Jézabel lui donnait 24 heures à vivre. Il s'attendait à tout autre chose. Après la démonstration de la puissance de Dieu, du ralliement du peuple à l'Éternel, chapitre 18, verset 39, le peuple était avec lui. Oui, c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Il s'attendait à un réveil spirituel de la part du roi Akab, probablement une repentance aussi de la part de sa femme Jézabel, une conversion. Or, c'est son arrêt de mort qui est signé par Jézabel lorsqu'elle apprend qu'Élie a tué les prophètes de Baal. Alors il fuit Et le texte le dit pour sauver sa peau. Et quelques versets plus loin, il ne cherche même plus à sauver sa peau. Il demande à Dieu de reprendre sa vie. Il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau. Alors on peut noter qu'il ne se donne pas la mort. Il ne cherche pas à se suicider. Il demande à Dieu de le reprendre, ce qui est quand même différent. Mais il est bien découragé. Ce roc solide, cet homme de Dieu remarquable. Et il arrive que les hommes de Dieu, mais pas seulement les hommes ou les femmes de Dieu, n'importe quel enfant de Dieu, mais que les hommes de Dieu de cette trempe passent par des périodes de dépression. C'était le cas du grand prédicateur Spurgeon. C'était quand même un grand bonhomme, un grand prédicateur. À l'âge de 27-28 ans, je l'ai déjà dit, je le répète, il a fait construire un temple de 5000 places qui était rempli. À la fin de sa vie, il avait des phases de profonde dépression. Et il venait d'ailleurs se ressourcer, se faire du bien en allant à Menton, près de Nice, sur la Côte d'Azur, pour se reposer ou pour se réchauffer sous le soleil de la Côte d'Azur, le brouillard londonien n'étant pas très propice aux dépressifs. Il paraît que Churchill, alors c'était pas un homme de Dieu, quoique je ne connaisse pas sa foi, Churchill était aussi dépressif. Et il parlait de sa dépression comme d'un chien noir qui le suivait sans cesse. Au verset 46 du chapitre 18, nous lisons « Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi. » Qu'est-ce qui s'est passé pour que, avec une telle force de l'Éternel, maintenant, il connaisse une telle faiblesse? On voit bien son enthousiasme, sa joie de recevoir de la part de la famille royale l'annonce d'un repentir, d'une conversion. Mais c'est tout le contraire qu'il apprend. Alors il se sauve pour sauver sa peau. Il se cache dans le désert, s'épuise à marcher pendant une journée pour mettre de la distance entre ses poursuivants Élie et lui. Il n'en peut plus, il demande la mort. Alors tout ce qu'il a fait, les 3 ans de sécheresse, de privation, de miracle de Dieu, d'intervention de Dieu pour l'aider, pour prendre soin de lui, tout cela n'a-t-il servi à rien? Mais où sont les fruits de son action? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Autrement dit, j'ai échoué comme eux. C'est une bien sombre image qu'il a de ses pères. Ils n'ont pas réussi à faire marcher son peuple dans les voies de Dieu, comme si cela dépendait de ses pères. Mais quand on est découragé, il est facile de s'accuser soi-même et de se dire qu'on n'est bon à rien, qu'on a mal fait. Alors on broie du noir, tout devient négatif. Élie pense qu'il a échoué et cette pensée le fait sombrer dans la dépression. Et c'est un cercle vicieux qui l'enfonce encore plus. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Et c'est peut-être là la première leçon à ceux qui passent par des phases de dépression. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il vient à sa rencontre. Et il va intervenir en 2 temps. Tout d'abord, il va lui donner à manger. Élie est faible, il a besoin de se reprendre des forces. Alors un repas chaud, du gâteau, de l'eau, un repas simple, mais c'est celui des bédouins du désert. Et puis il va aussi le laisser dormir. Élie était épuisé physiquement, et le sommeil est réparateur. Première phase. Une phase, on pourrait dire, un peu médicale. Il faut restaurer son corps. Puis une autre phase, il va l'amener jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est là le Sinaï, où Dieu avait parlé à Moïse lorsqu'il lui avait donné sa loi. Et les 40 jours et les 40 nuits, ça fait penser aussi à ces 40 jours et ces 40 nuits que Moïse avait passé sur la montagne. On pourrait dire retour aux sources. Et le chrétien peut aussi se rappeler les bénédictions que Dieu lui a accordées au cours de son existence. Il peut se souvenir des promesses de Dieu, comme par exemple, et c'est vrai, je peux en témoigner dans des moments de découragement ou d'épreuve, ces versets qu'on connaît un peu par cœur, qui semblent si familiers, prennent une résonance particulière d'un seul coup. Ils sont là véritablement pour encourager. Par exemple, psaume 46, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ou encore cette parole, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Sous-entendu, s'il nous a secourus jusqu'ici, il le fera encore. Et on peut noter que c'est seulement à partir de maintenant que Dieu va parler à Élie. Jusque-là, il l'a nourri, il lui avait envoyé son ange, l'ange de l'Éternel. Il l'a nourri, il l'a laissé dormir. Il lui a demandé d'aller à la montagne de Dieu, et c'est maintenant seulement qu'il lui parle. Il va lui demander la raison de sa fuite, comme s'il ne la connaissait pas. Mais il va le faire parler, lui faire sortir ses mots. Et là, on peut écrire le mot « mot » dans les deux sens qu'ils ont. M-O-T-S ou M-A-U-X. Il va lui faire sortir ses mots, ce qu'il a au fond de lui-même. Et on remarque qu'Élie est très égocentrique. Il ramène tout à lui dans sa réponse. C'est-à-dire qu'il parle de lui comme s'il était seul au monde, comme s'il était un héros abandonné. « Je suis resté moi seul et il cherche à prendre ma vie. » Alors c'est vrai, il s'est battu seul contre tous, mais avec la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a agi. Et cet homme de Dieu que Dieu avait protégé, nourri, a perdu maintenant confiance en lui, peut-être aussi confiance en Dieu. À deux reprises, il dit la même chose, tant il est borné par sa seule façon de voir les choses. Et Dieu ne va pas lui faire de grands discours, ne va pas lui faire de reproches, ne va pas lui dire « mais tu as eu complètement tort de t'échapper comme ça, je t'aurais protégé » ou toute autre chose, non. Il va lui révéler, et c'est ce que je trouve vraiment remarquable chez le Seigneur, il va lui révéler la douceur de sa présence. Et c'est bien ce dont Élie avait besoin, de la compassion, de la compréhension et de l'affection. L'Éternel n'était pas dans le vent violent, il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le feu. L'Éternel était dans un son doux et subtil, avons-nous lu. Et les traducteurs, quand on consulte différentes traductions ou les notes qu'on a parfois au bas des pages, s'aperçoit que les traducteurs ont de la peine à traduire cette expression, traduite ici dans la Bible à la Colombe, son doux et subtil. Mais j'ai lu ailleurs, dans un souffle de silence, ou encore dans le bruissement d'un souffle ténu, c'est-à-dire peu, très peu perceptible. Dieu n'a pas voulu donner à Élie l'image d'un Dieu fort, tout-puissant, qui détruit, redoutable. Il lui donne l'image d'un Dieu tendre, qui se fait connaître dans un son doux et subtil. J'aimerais rapprocher cela. Il y a 3 bougies d'allumées ici, c'est 3 dimanches avant Noël, c'est donc bientôt Noël. J'aimerais rapprocher cela de la manifestation de Dieu sur terre en nous donnant Jésus. Dieu ne se manifeste pas non plus de façon violente, mais il se manifeste de façon douce et tendre. C'est comme la voix des anges au berger la première nuit de Noël. Et nos cantiques de Noël reproduisent bien ce calme de Dieu au moment où il se fait homme pour entrer en relation directe avec les hommes. Par exemple, ce chant que vous connaissez tous, « Voici Noël, ô douce nuit ». Douce nuit, pourquoi ? Douce nuit. L'étoile est là, qui nous conduit. Il n'y a rien de plus paisible qu'une étoile. Qu'est-ce qu'une étoile ? Je ne vais pas vous donner une définition scientifique, pas du haut de cette chaire. Ma définition, une étoile, c'est un monstre de grandeur qui évolue silencieusement dans l'espace sidéral. Imaginez une armada de semi-remorques qui se déplace à toute allure au-dessus de vos têtes en pleine nuit et savourez la différence avec le déplacement des milliards et des milliards et des milliards, et on pourrait en ajouter de ces milliards d'étoiles au-dessus de notre tête, dans le silence de la nuit. Dans le silence de la nuit, approchons de l'hôtellerie. Avez-vous déjà passé une nuit à la belle étoile ? Les étoiles vous ont-elles dérangé dans votre sommeil ? L'enfant dort auprès de Marie, entrons sans bruit, oui, pour ne pas réveiller l'enfant. Mais il n'y a pas eu de bruit, sauf la parole des anges aux bergers. Mais cela devait être très mélodieux, même s'ils ont eu peur. Évidemment, rencontrer des anges, ce n'est pas fréquent. Alors, ce n'était pas pour effrayer. Pas de tremblement de terre, pas d'ouragan, mais une voix qui dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et cette voix fait place à une multitude d'anges qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et c'est ainsi que Dieu agit avec Élie. Il lui dévoile sa tendresse, sa bonté, son amour. Et Dieu montre à ce serviteur découragé qu'il a encore besoin de lui, que ce n'est pas vrai, qu'il mérite la mort. Et c'est quand on pense qu'on n'est plus bon à rien que Dieu peut encore nous utiliser. Et je pense particulièrement aux personnes âgées, qui disent souvent, je l'ai entendu, « Je ne peux plus rien faire pour le Seigneur. » Eh bien si, vous pouvez prier. Et votre présence seule chaque dimanche est un véritable encouragement. Et l'apôtre Pierre a dû avoir la même pensée qu'Élie après avoir renié son maître. Mais Jésus lui fait confiance, lui refait confiance. Par trois fois, il lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Élie a voulu se mettre en retrait, ou peut-être à la retraite. Mais Dieu lui a fait comprendre que sa tâche n'était pas encore achevée. Il a pensé que son ministère était un échec. Mais Dieu lui a fait comprendre qu'il n'en était rien. Alors il l'envoie à Damas. Alors imaginez, depuis le mont Sinaï, en bas de la Palestine, d'Israël, retourne, va à Damas qui est tout à fait au nord. Très loin, au nord des frontières d'Israël, pour oindre un roi. Pourquoi oindre un roi ? Ce roi sera l'instrument de Dieu pour le jugement de ce peuple qui n'a pas voulu de Dieu. mais peut-être aussi pour dire à Élie que son ministère dépassait le pays d'Israël, car Dieu est le Dieu de toute la terre. Peut-être aussi pour lui dire que Dieu s'occupait de la politique étrangère d'Israël. Ou peut-être encore, alors si je dis peut-être, c'est parce que le texte ne nous en donne pas les raisons, pour sortir Élie de son monde, pour lui faire rencontrer d'autres personnes, pour lui donner un autre ministère. Et Dieu emploie encore Élie, mais déjà il a prévu et même pourvu un remplaçant. C'est donc qu'il pense quand même que le ministère d'Élie est achevé, s'achève, tout en refusant qu'il s'achève sur une notion d'échec. Élisée est désigné comme prophète à la place d'Élie. Dieu maintient en Israël, malgré l'infidélité du peuple, un homme de Dieu, un pasteur, qui rappellera la présence de Dieu au milieu de son peuple. Voilà comment Dieu agit avec ceux qui sont découragés, en pleine dépression. L'apôtre Jacques nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Nous avons parfois un peu de la peine à le croire, tant la parole d'Élie avait une incidence parfois terrible, forte, de la part de Dieu sur le peuple. Mais oui, c'était un homme comme nous, et ce texte que nous avons lu nous le montre bien. Et l'apôtre Paul a écrit « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Lui aussi avait des temps de faiblesse. Il ne pouvait pas compter sur ses propres forces, mais seulement sur Dieu. Les hommes et les femmes de Dieu ont leurs faiblesses, Dieu le sait, et il ne leur en tient pas rigueur. Élie était arrivé au bout du rouleau, mais Dieu l'encourage, gentiment, sans le secouer, ce qui n'aurait d'ailleurs servi à rien. Il agit tout en douceur. Alors il l'emploie encore, jusqu'au jour où il décide de le reprendre. Et de quelle façon? Vous le savez, l'enlèvement d'Élie, c'est un avant-goût de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas s'il y aura des chars de feu quand l'Église sera enlevée, hein, quand l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, seront enlevés, mais peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'est un avant-goût. Et lors de la transfiguration de Jésus, Élie représente tous les prophètes de l'Ancien Testament comme Moïse représente la loi, la parole que Dieu a donnée à son peuple. Et il y a là, sur la montagne de la Transfiguration, les trois personnages les plus importants de l'humanité, Moïse, Élie et Jésus. Élie a-t-il donc tout raté? Bien sûr que non. Il est là comme représentant de ces prophètes de Dieu. Peu d'hommes ont profondément marqué l'histoire de la Bible comme Élie, malgré son extrême solitude. Alors bien sûr, c'est Jésus notre modèle, notre exemple, lui, l'homme parfait. Il paraît que la langue italienne, alors je ne sais pas, moi je ne connais pas l'italien, hein, je ne sais pas si des gens connaissent l'italien ici, utilise le même mot pour dire exemple et champion. Jésus est notre exemple et notre champion. Et c'est vrai, ça devrait être le cas. Les champions, en tout cas là où ils sont champions, devraient être aussi nos exemples. Oui, Jésus est notre exemple et notre champion. Il veut aussi se révéler à nous dans le silence de notre cœur. Nous qui attendons parfois une révélation spéciale, Dieu pourrait nous foudroyer. Non, Dieu se révèle dans le silence de notre cœur. Alors un des chants de Noël, et je terminerai par là, nous dit « Il veut nos cœurs, il les attend. Il vient en faire la conquête, il veut nos cœurs, il les attend, qu'ils soient à lui dès ce moment. » Prions Dieu. Seigneur, tu es vraiment un Dieu extraordinaire. parce que tu viens vers ceux qui sont en peine, ceux qui sont dans la douleur, dans la souffrance, ceux qui ont besoin de toi sans trop savoir comment l'exprimer. Merci pour cet exemple de ton attention à l'égard d'Élie, de ce que tu ne l'as pas laissé là en plan, mais tu es venu le réconforter, l'aider, et tu es venu encore l'utiliser. Merci Seigneur pour ce texte qui nous encourage aussi. Et nous voulons penser à ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, peut-être même dans la dépression, pour que tu les rencontres aussi de la même façon et que tu leur fasses du bien. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci parce que tu désires aussi utiliser chaque personne ici présente. Personne ne peut dire « je suis bon à rien » ou « ce que j'ai fait n'a servi à rien ». Merci Seigneur parce que tu nous utilises dans ta grâce. Bénis encore ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.